Donc, je veux commencer la prédication avec des questions à vous. Vous n'êtes pas obligé de répondre à haute voix, mais réfléchissez à ce que vous répondriez. Okay? Que feriez-vous si vous viviez dans un monde plein de guerres et de catastrophes? Quel serait votre plan dans un monde où Dieu est rejeté ou où on vit sans Dieu? Quelle serait votre réaction dans un monde où certains chrétiens remettent en question la véracité de la Bible en tant que parole de Dieu? Que feriez-vous si vous viviez dans un monde où certains chrétiens doutent des affirmations bibliques fondamentales et prétendent que chacun peut se forger sa propre voie en fonction de ses propres sentiments? Quelle serait votre réaction si des conflits et des disputes surgissaient entre les chrétiens de votre assemblée? Quel serait votre plan si des membres de votre assemblée rencontraient des difficultés relationnelles en raison de leur origine, famille ou milieu différent? Quelle serait votre réaction si des croyants de votre assemblée critiquaient les activités d'évangélisation sans y participer eux-mêmes? Je pense, vous l'avez remarqué, nous vivons dans un monde comme celui-ci. Nous vivons dans un monde sans Dieu, plein de guerres et de catastrophes. Nous vivons dans un monde où de nombreux faux enseignements se répandent au sein même du christianisme. Et même dans nos églises, nous prenons parfois conscience de nos faiblesses. Nous ne sommes pas parfaits non plus. Nous aussi, nous avons nos défis à relever avec nous-mêmes et avec les autres. Et je dis bien « nous » parce que ça fait partie aussi de moi. D'ailleurs, le monde n'était guère différent il y a 2000 ans. Et à cette époque, on se posait déjà la même question. Comment, en tant que croyant, pouvons-nous réagir face à tous ces défis? Peut-être instaurer des règles plus strictes au sein de l'Église, ou prononcer des sermons stricts, ou insulter les faux prophètes dans l'Internet, ou peut-être s'engager dans des débats passionnés sur les erreurs commises par les gouvernements. Je crois que Dieu a un tout autre plan. Et nous souhaitons examiner ce plan aujourd'hui et on va lire en Romains 1, les versets 1 à 7, 16, 17 et 20 et 21. Donc Romains 1, 1 à 7, 16 et 17 et 20 et 21. Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre appelé, mis à part pour l'évangile de Dieu, lequel il avait auparavant promis par ses prophètes dans de saintes écritures, touchant son fils né de la semence de David selon la chair, déterminé fils de Dieu en puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection des morts Jésus-Christ, notre Seigneur, par lequel nous avons reçu grâce et apostolat, pour l'obéissance de la foi parmi toutes les nations, pour son nom, parmi lesquelles vous aussi, vous êtes appelés de Jésus-Christ. À tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, saints appelés, grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et puis le verset 16 et 17. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, et aux Juifs premièrement et aux Grecs. Car la justice de Dieu y est relevée sur le principe de la foi pour la foi, selon qu'il est écrit, « Or le juste vivra de foi. » Et puis encore les versets 20 à 21. Car depuis la fondation du monde, ce qui ne se peut voir de lui, savoir et sa puissance éternelle et sa divinité, se discernent par le moyen de l'intelligence, par les choses qui sont faites, de manière à les rendre inexcusables. Parce que, ayant connu Dieu, ils ne le glorifièrent point comme Dieu, ils ne lui rendirent grâce, mais devinrent vains dans leur raisonnement, et leurs corps destitués d'intelligence furent remplis de ténèbres. Aujourd'hui, nous allons nous poser trois questions. Premièrement, à qui est adressé l'épître aux Romains? Deuxièmement, pourquoi Paul a-t-il écrit l'épître aux Romains? Et troisièmement, que pouvons-nous en apprendre? Et nous commençons par à qui est adressé l'épître aux Romains? Au verset 7, il était écrit « À tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, saints appelés, grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Et au verset 16, au début, c'était écrit « Et aux Juifs premièrement et aux Grecs. » L'apôtre Paul a écrit cette lettre aux croyants de Rome. La plupart des exégètes bibliques la situent en l'an 56 après Jésus-Christ. À ce moment-là, Paul n'était jamais été à Rome. Mais désirait de pouvoir s'y rendre un jour, jusqu'ici Dieu n'avait pas permis, mais voulait y aller, il dit ça au verset 13, on n'a pas lu, mais au verset 13, au chapitre 1, il dit ça. Mais comment pouvons-nous imaginer cette église à Rome? Qui étaient les membres de cette église et où se réunissaient-ils? Si on lit au Romains 16, le verset 3a et 5a, là c'est écrit « Saluez Prisca et Aquila » et puis dans le verset 5 « Et l'assemblée qui s'est réunie dans leur maison ». Les croyants à Rome ne se réunissaient pas dans des chapelles ou des églises comme nous le faisons aujourd'hui. Le concept des bâtiments comme des églises n'a véritablement émergé dans le christianisme seulement au 4e siècle après Jésus-Christ. Les croyants à Rome se réunissaient dans des maisons et des synagogues. Vous pouvez voir une maison ici du 1er siècle sur l'image à droite. Prisca et Aquila vivaient probablement dans une maison comme ça et au chapitre 16, c'est écrit que certains croyants de l'Église se réunissaient dans cette maison. Et les croyants se réunissaient également dans des synagogues. Et là, vous voyez une synagogue ou un plan d'une synagogue du 1er siècle après Jésus-Christ. Et une synagogue, c'est aussi un peu un autre concept que notre Église aujourd'hui. Parce que vous voyez, on était plus ou moins dans un cercle. Et c'est lui qui ferait la prédication, il pouvait même aller partout, et tout le monde pouvait aller partout, c'était un autre concept de construction. Mais peut-être certains d'entre vous se demandent, mais pourquoi des chrétiens se réuniraient-ils dans une synagogue juive? C'est une excellente question. Et la réponse, ça va être un peu étonnant. Les croyants de Rome n'étaient pas des chrétiens. Vous avez bien entendu? Les croyants de Rome n'étaient pas des chrétiens. Ils croyaient en Jésus-Christ, mais ils ne se disaient pas chrétiens. Ils se disaient disciples de Jésus, par exemple en Actes 18. Ils se disaient ceux qui sont en chemin, aussi en Actes, mais en chapitre 19. Le terme chrétien est employé une fois en Actes 11, 26 par d'autres personnes parlant sur les croyants. Et plus tard, il est utilisé encore deux fois dans la Bible, en Actes 26, 28 et en 1 Pierre 4, 16. Mais les croyants de cette époque ne se qualifiaient pas de chrétiens parce que le christianisme dont on connaît aujourd'hui n'existait pas. Le christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui, il est apparu seulement au 4e siècle après Jésus-Christ. Par conséquent, je ne vais pas critiquer le pasteur de cette église, je le fais aussi souvent, mais historiquement, c'est incorrect si on parle sur la Bible sur des chrétiens dans les sermons. On fait ça souvent parce que c'est mieux d'expliquer ce qu'on veut dire, mais historiquement, on devait dire c'est des croyants, parce que le terme chrétien, ça vient vraiment siècles après. À l'époque du Nouveau Testament, la foi en Jésus était une branche du judaïsme. Il y avait les branches comme par exemple les Sadducéens, les Pharisiens et d'autres groupes. et les disciples de Jésus se considèrent comme l'accomplissement des prophéties bibliques concernant un Messie juif, et c'est ça, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour cela que les Juifs et les non-Juifs fréquentaient les assemblées de Rome. Tous ensemble, ils croyaient au Messie juif Jésus-Christ. Et ils se réunissaient là où il y avait la place, la maison ou la synagogue. Et à ce moment-là, les Juifs non croyants à Jésus n'ont pas encore jeté dehors les croyants juifs croyants à Jésus. Et ces croyants à Jésus, ils vivaient ensemble une telle unité qu'ils ont eu même un symbole pour ça, et c'est le symbole ici. Donc vous avez une menorah, ça c'est la référence à la foi juive fondée sur la Torah ou le Pentateuque. Puis vous avez l'étoile de David, indiquant que le Messie est un descendant de David, ce qui est le cas pour Jésus. Et troisièmement, le poisson, symbolisant que les disciples de Jésus sont devenus des pêcheurs d'hommes. Ils devaient témoigner de Jésus. Et on a retrouvé des symboles comme ça sur des sites archéologiques du 1er siècle. Ça, c'était le symbole des chrétiens du 1er siècle. Donc, ce n'était pas une croix, mais c'était ça. Et ça illustre un peu la façon dont ils se percevraient eux-mêmes. Paul parle après, maintenant des croyants, comme étant aimés de Dieu et appelés à la sainteté. Ces croyants, ils sont aimés de Dieu, du Créateur du ciel et de la terre, comme on a chanté avant. Ces croyants sont appelés par Dieu. Et ces croyants sont saints car le sacrifice de Jésus les a sanctifiés aux yeux de Dieu. C'est un groupe de personnes incroyables. Ainsi, en 56 après Jésus-Christ, on a ici une communauté de juifs et de non-juifs croyant en Jésus se réunissant dans des maisons et des synagogues à Rome. Ils sont aimés, appelés et sanctifiés par Dieu. On finit la prédication, c'est une belle prédication, c'est bon. Non, ça finit pas ça. Parce que ça va mal tourner. Ces croyants sont des êtres humains, tout comme vous et moi. Et bien qu'ils soient aimés, appelés et sanctifiés par Dieu, ils ne sont pas encore parfaits. Le péché est encore présent dans leur vie. Juifs et non-juifs ne s'entendent pas toujours bien, c'est ça un des raison pourquoi il y a l'épître aux Romains. Parce qu'ils viennent de cultures différentes. Et parfois, ils se débattent sur les méthodes d'évangélisation. Il s'ajoute encore les influences très diverses des autres croyants dans les autres régions du Empire romain. On trouve aussi des hérésies là. Et l'Empire romain, c'est un monde de violence et de haine, d'idolâtrie et de nombreux désastres et de guerre. Vous voyez, les problèmes de Rome nous semblent très familiers. Alors, que fait Paul maintenant? Quel est son plan? Comment s'attaque-t-il à des problèmes comme ça? Et ça nous amène à deuxième, pourquoi Paul a-t-il écrit l'épître aux Romains? Paul a un plan pour répondre aux problèmes de la société romaine et des croyants. Et ce plan est le suivant. L'évangile du Messie juif Jésus-Christ. Il proclame l'évangile de Jésus-Christ. Il parle de Jésus-Christ dans ses sermons. Il écrit sur Jésus dans ses lettres. Il répond à chaque question concernant les problèmes par la même réponse. Quelle est la solution pour une société comme dans l'Empire romain? L'évangile du Messie juif Jésus-Christ. Quelle est la seule solution lorsque des hérésies surgissent dans l'Église? L'évangile du Messie juif Jésus-Christ. Quelle est la solution au conflit dans l'Église? L'évangile du Messie juif Jésus-Christ. Et tout l'épître aux Romains est structuré selon ce concept. Les chapitres 1 à 8, c'est plus ou moins une explication en détail de l'évangile du Messie juif Jésus-Christ. Les chapitres 9 à 10 font alors la relation entre cet évangile du Messie juif Jésus-Christ et le peuple d'Israël. et les chapitres 12 à 16. Alors là, c'est l'explication de l'évangile du Messie Jésus, juif Jésus-Christ et les croyants de toutes les nations. La base, le fondement, la réponse à toutes les questions est Jésus. Dans les versets 1b à 4, Paul résume l'évangile du Messie juif Jésus-Christ en cours. Pour l'évangile de Dieu, lequel il avait auparavant promis par ses prophètes dans la Sainte Écriture, touchant son Fils, né de la semence de David selon la chair, déterminé Fils de Dieu en puissance selon l'Esprit de sainteté, par la résurrection des morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. L'évangile de Jésus était déjà prédit dans l'Ancien Testament. C'est pour cela qu'il parle ici de Sainte Écriture des prophètes. Et Jésus était un descendant de David, donc un prince, et par nationalité un juif. Il était ainsi le Messie juif. Et il est le Fils de Dieu car il est mort sur la croix et il est ressuscité des morts. Par cet évangile, Paul convainc tous ses auditeurs à Rome. Car les juifs de Rome connaissaient les saintes écritures des prophètes et les non-juifs savent que la résurrection de Jésus est un fait historique. Cette foi commune en le Seigneur Jésus-Christ est et doit être le fondement des croyants de Rome. Mais il y a quand même des conflits qui viennent. Beaucoup de juifs, par exemple, ont rejeté Jésus. Ça peut être bien dans la tête des non-juifs. Ou encore les juifs de Rome, croyant à Jésus, peuvent penser « Oh, ces non-juifs ne connaissent pas les saints prophètes. Nous sommes un peu plus croyants qu'eux. » Et chacun des croyants peuvent peut-être penser « Cette société sans Dieu, quelle atrocité ils commettent. » La réponse de Paul à toutes ces pensées est l'évangile du Messie juif Jésus-Christ. Parce que dans les versets 20 à 21, il écrit « Car depuis la fondation du monde, ce qui ne se peut voir de lui, sa voix et sa puissance éternelle et sa divinité, se discernent par le moyen de l'intelligence, par les choses qui sont faites, de manière à les rendre inexcusables. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne le glorifièrent point comme Dieu, ni ne lui rendirent grâce, mais devinrent vains dans leur raisonnement. Et leur cœur destitué d'intelligence fut rempli de ténèbres. Le jugement de Dieu sur ce monde est clair. L'existence de Dieu se manifeste dans la création, dans la nature, même dans l'humanité. Quiconque ignore cela et affirme que Dieu n'existe pas est inexcusable devant Dieu. Paul décrit la société de son époque en détail dans les versets 18 à 32, et on peut le décrire en une phrase, l'état de la société romaine était terrible. Et cette description s'applique également à notre monde actuel. Mais avant que les croyants de cette époque à Rome ou nous-mêmes pensent que nous sommes mieux, disons les chapitres 2 et 3 de l'Épître aux Romains. Paul y explique sans détour que ni les juifs, ni les non-juifs, croyants ou non, ne valent mieux. Même les croyants n'ont aucune excuse. Eux aussi, souvent, déshonorent Dieu par leur comportement malgré leur foi. L'évangile du Messie juif Jésus-Christ décrit sans pitié l'état du monde et des croyants. Il y a un problème. Mais la solution n'est pas de s'énerver de cette situation misérable. La réponse est, les gens ont besoin d'entendre parler de Jésus. Les gens ont besoin d'entendre parler de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Les gens ont besoin de comprendre que le Messie juif Jésus-Christ est la solution. Les gens ont besoin de comprendre que l'évangile du Messie juif Jésus-Christ est la nouvelle la plus importante et la plus positive au monde, il y a 2000 ans et aujourd'hui. Et cela nous amène à la question, que pouvons-nous en apprendre? Dans les versets 5 à 6, il était écrit, par lequel nous avons reçu grâce et apostolat pour l'obéissance de la foi parmi toutes les nations pour son nom, parmi lesquelles vous aussi vous êtes appelés de Jésus-Christ. À tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, saints appelés, grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois les versets 16 à 17. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, car elle est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, et aux Juifs premièrement et aux Grecs. Car la justice de Dieu y est relevée sur le principe de la foi pour la foi, selon qu'il est écrit, « Or le juste vivra de foi. » Paul est très clair, proclamez l'Évangile de Jésus-Christ. C'est à cela que les croyants de Rome étaient appelés. C'est à cela que nous sommes appelés aujourd'hui. Par Dieu lui-même. Et les excuses, je ne peux pas et je n'ai pas envie, ne sont pas valables. Pas maintenant. Paul associe ce projet de parler de Jésus à la notion d'obéissance dans la foi. Il est notre devoir de parler de Jésus. Nous sommes vite, même comme croyants, à critiquer tout le monde. Nous critiquons les politiciens, nous critiquons les autres. Nous critiquons les autres chrétiens parce qu'ils sont différents de nous. Et nous critiquons aussi ceux qui évangélisent parce qu'ils s'agissent différemment. Mais parler de Jésus lui-même, parfois, nous n'y pensons pas. C'est trop difficile, trop épuisant, ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas mon talent ou pas maintenant, un autre jour. Nous devrions parler de Jésus, penser à Jésus, revenir à Jésus dans chaque discussion. Nous demander sans cesse, que dirait Jésus? Que ferait Jésus? Est-ce que j'honore Jésus par ma conduite? Et nous devrions vraiment nous poser sans cesse la même question dans chaque dispute et au conflit au sein de l'Église. Est-ce que je parle de Jésus en ce moment? Jésus n'est-il pas mort pour cette personne aussi? Qui suis-je pour m'accrocher si obstinément à mon opinion, à mon orgueil? Dans sa prière en Jean 17, Jésus dit que l'unité entre les chrétiens est la chose où les gens vont voir qu'il y a vraiment Dieu. Et je pense... Ici au Luxembourg, il y a une raison pourquoi il n'y a pas beaucoup de protestants. Parce que les églises qui sont là ont même eu déjà des conflits. Ça c'est pire. Ça c'est très pire qu'on fait ça comme chrétien. C'est un travail à nous tous à dire l'autre est un chrétien, peut-être différent, mais il est un chrétien. Nous devons proclamer l'évangile du Messie juif Jésus-Christ par nos paroles et par nos actions. Et chacun ici peut le faire de sa façon, dans son âge, dans son environnement. Prier, ça, tout le monde le peut. Porte à porte, il y a des gens qui veulent faire ça. À l'internet, ou parler. On peut faire ça, tout le monde. Il suffit de bien gérer son temps et d'agir en conséquence. Et j'espère et je prie pour que ce passage de l'Épître aux Romains nous rappelle l'essentiel, Jésus. Dieu nous a donné un temps limité pour notre vie. Ce temps est précieux et unique. En Afrique, j'avais un copain chrétien qui a toujours dit « Le temps ne revient jamais ». Il est donc essentiel de l'utiliser à une bonne façon. Nous devons tous aller à l'école ou travailler pour payer à nos besoins. Nous devons faire vivre nos familles et élever nos enfants. Mais comment utilisons-nous notre temps autrement? Nous le gaspillons souvent. Nous le perdons aussi fréquemment en disputes et conflits familiaux et religieux. Et nous perdons également beaucoup de temps à critiquer d'autres personnes, dans leur cœur et vraiment par la bouche. Or ce temps perdu, nous, est d'aucune utilité, ni à nous-mêmes, ni aux autres. Et il ne revient jamais. Donc, redécouvrons cette perspective de Paul, proclamer l'évangile du Messie juif Jésus-Christ, à la maison, à l'école, au travail, à l'église, de porte en porte, où que nous soyons. Ça, c'est la raison pourquoi on a créé ou fondé Luxembourg Sport Evangelium, parce que les Luxembourgeois ont besoin de l'évangile, et tout le monde a besoin de l'évangile. Et nous avons de nombreuses façons de partager l'évangile, à la conversation, lors de distribution, lors de fêtes, en ligne, dans nos amitiés. Et on peut toujours dire, je dis ça même à mes enfants quand ils ont des questions que je ne peux pas répondre, je dis toujours, Jésus a déjà la réponse. Moi pas, mais Jésus l'a. L'évangile du Messie juif, Jésus-Christ, est la réponse à toutes nos questions sur la vie. Amen. 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 Amen.